Le journal, Lévin Bingham.
Bonjour, l'actualité de ce jour, c'est d'abord l'adoption de la loi électorale hier au Parlement. Députés et sénateurs ont adopté ce projet de loi qui consacre l'organisation des élections en RDC au cours d'une plénière mixte au Palais du Peuple ici à Kinshasa. Dans ce journal également, la situation humanitaire difficile pour les déplacés de Mitwaba au Katanga. Plusieurs cas de malnutrition sont relevés parmi les nouveaux venus, mais la distribution des vivres a quand même démarré. Nous évoquerons enfin ce séminaire de plus de 60 magistrats civils et militaires à Mbandaka. Au menu, la lutte contre l'impunité et la reconstruction du système judiciaire en RDC, initiative de l'ONG Avocats sans frontières. Encore une fois, bonjour. Comme attendu, la loi électorale a été adoptée hier mardi au Parlement au cours de la plénière mixte Assemblée nationale-Sénat. Ce projet de loi qui consacre l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales en République démocratique du Congo entre en vigueur après sa promulgation par le chef de l'État. Du côté de la commission électorale indépendante, c'est bien sûr la satisfaction. On écoute son premier vice-président qui a pris part à cette plénière qui a réuni députés et sénateurs. Norbert Bachengezi a été joint au téléphone par René Capita.
Aujourd'hui, c'est une autre victoire des deux chambres du Parlement qui viennent de nous donner les textes juridiques pour faire avancer les processus. C'est donc une joie du côté commission électorale indépendante parce que nous attendions cette loi depuis janvier. Maintenant qu'elle est adopté, je crois qu'elle va suivre son boulevard à la Cour suprême de justice jusqu'à la promulgation par le chef de l'État. Et directement, nous allons faire les modalités pratiques au lendemain et nous devons commencer l'inscription des électeurs parce que son article 245 dit qu'elle entre en vigueur à la date de sa promulgation. Tous les matériels ont été envoyés. Les bulletins ou les autres matériels qui sont directement liés à cette loi ne sont pas encore prêts avant sa promulgation, mais dès qu'elle est promulguée, le calendrier sera effectif. Aujourd'hui, nous avons donné le chronogramme aux deux chambres du Parlement.
Notez que le calendrier prévisionnel proposé par la CEI prévoit 116 jours pour le dépôt des candidatures, la production des listes électorales et l'acheminement du matériel dans les chefs-lieux des provinces avant la tenue des premières élections. Selon le vice-président de la commission électorale indépendante, cette période devra débuter au lendemain de la promulgation de la loi électorale par le président de la République. Norbert Bachengezi a par ailleurs signifié que 43 jours devront s'ajouter à cette période au cas où il y aurait un deuxième tour pour le scrutin présidentiel. La question de la création du territoire de Minembwe au cœur d'une réunion entre le ministre de l'Intérieur et différentes entités du Sud Kivu, Théophile Mbemba, a confirmé que ce dossier devrait être géré en considérant la cohésion nationale. Sachez que la semaine dernière, cette question sur l'entité de Minembwe avait soulevé une tension à Bukavu et Uvira. À l'origine, une rumeur selon laquelle un décret aurait confirmé l'entité de Minembwe comme territoire. Suivez, le ministre de l'Intérieur, Théophile Mbemba, est au micro de Dieudonné Bagalwa.
Nous avons reçu effectivement les différentes communautés de Sud Kivu pour parler du dossier de création des territoires de Minembwe, Bouniakiri et la commune de Kacha et la chefferie de Bouzi. Nous leur avons apporté l'information quant à l'état du dossier et nous avons dit que nous devons gérer ce dossier en consolidant la cohésion nationale, la communauté nationale, la réconciliation nationale, en considérant que nous sommes en période électorale, d'ici là il y aura des élections, mais en tenant compte aussi de la constitution de la Troisième République qui vient d'être promulguée. En fait, le découpage territorial, il est prévu, mais il doit se faire dans l'harmonie, en faisant de telle sorte que ça unit plutôt que ça divise. À l'examen des dossiers, tous ces dossiers-là, même si ça ne pose pas de problème, aujourd'hui on ne peut pas le faire, parce que le moment s'apprête pendant la veille des élections. Donc nous allons poursuivre pour que peut-être le gouvernement qui suivra puisse l'aborder.
Sud Kivu, toujours sur un tout autre chapitre, un enfant tué, 17 personnes enlevées, bilan d'une attaque attribuée aux combattants hutu-rwandais sur le territoire de Luizi à Ninja. L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. L'administrateur assistant résident du territoire de Kabaré a été témoin de cet événement. Christian Biringira a été joint par Dieudonné Bagalwa.
Les assaillants sont venus de la forêt de Mugaba, ils ont fait érigé dans les villages de Livy, là où ils ont tué une personne et ils ont enlevé 17 autres qu'ils ont emportés dans la forêt. Ils ont pris aussi des biens, des poulets, des cobayes, des habits, des ustensiles de cuisine. On les a transportés dans la forêt de Mugaba. Les assaillants ont essayé de contourner les positions des FARDC. C'est parce que les personnes en soi, ils étaient au moins à 500 mètres, à 1 km des positions des FARDC. Alors, les FARDC ont essayé de se défendre, mais les assaillants étaient déjà partis.
Situation humanitaire toujours préoccupante à Mitouaba, déclaration de l'un des membres de la délégation de la MONU Kinshasa qui vient d'effectuer une mission dans cette localité du Katanga. Christophe Boulierac affirme qu'il a observé plusieurs cas de malnutrition parmi les nouveaux venus, mais entre-temps, la distribution des vivres du PAM auprès des déplacés a commencé. Christophe Boulierac décrit la situation de nouveaux déplacés au micro de Denise Maheu.
J'ai vu arriver le 16 février environ 400 nouveaux déplacés. Il y a beaucoup d'enfants qui ont les cheveux tout jeunes. Il y a aussi des enfants qui perdent leurs cheveux. Ils ont des vêtements déchirés. Et puis, bien, ces déplacés ont marché 3-4 jours, pieds nus en général. Et ils étaient complètement épuisés à leur arrivée. Et effectivement, ils avaient très faim. Donc c'est une situation humanitaire difficile. Il y avait également des cas graves de malnutrition. Hein. J'ai effectivement assisté le mercredi 15 février à une distribution de vivres acheminés par des hélicoptères de la MONUC. Je ne peux pas dire si tous les déplacés auront la chance de recevoir des vivres, mais il y a des gens qui arrivaient à nouveau. En fait, la distribution que j'ai vue, moi, les bénéficiaires étaient des gens qui étaient là depuis quelques mois déjà.
Et puis la Ligue contre la corruption et la fraude basée à Lubumbashi dénonce ce qu'elle qualifie de fraude douanière désormais officialisée au Katanga. Dans un communiqué de presse publié la semaine dernière, la LICOF recommande au gouvernement congolais de prendre sérieux la lutte contre cette fraude douanière. La LICOF demande par ailleurs au gouverneur du Katanga de tout mettre en œuvre en vue de rappeler à l'ordre tous ses collaborateurs ainsi que les responsables de tous les services publics. On écoute le président de la Ligue contre la corruption et la fraude, Rachidi Adika Akida, a été joint à Lubumbashi par Eugène Kabambi.
Lorsque vous constatez au niveau de Sassoumbalessa, les marchandises, les véhicules qui sont transférés passent sans être inquiétés par les autorités militaires, même pas de la police, parce que toutes ces organisations sont au niveau de la frontière. Mais c'est officiel parce qu'il faut donner un peu d'argent aux responsables, soit de l'ANR, soit de la police, soit de l'armée, parce que tout le monde se trouve au niveau de la frontière. Vous donnez seulement un peu d'argent et vous voyez votre marchandise passer sans pour autant payer la douane. C'est dans ce sens-là que nous disons que c'est officialisé parce que tout le monde sait que ça passe d'une manière frauduleuse et moyennant corruption. Nous sommes déçus par l'autorité provinciale.
Pour sa part, la division provinciale des mines dénonce ce qu'elle appelle l'incivisme fiscal chez les opérateurs miniers de Kisangani. Vous avez compris, nous sommes dans la province orientale. Selon l'administration minière, seuls 7 négociants de diamants sur les 54 implantés à Kisangani ont payé leurs taxes à l'État congolais. De son côté, le président provincial de la Fédération congolaise de l'or et de diamants pose quelques conditions avant tout paiement. Explication dans ce reportage signé José Deschartes Minga.
Ce constat d'incivisme fiscal a été dressé hier lundi dans une conférence de presse par le chef des divisions des mines, M. Michel Lieté. Pour lui, ce constat est établi après qu'une mission du ministère des mines venue de Kinshasa a entamé avec lui une campagne de paiement de cartes de négociants. Michel Lieté, chef des divisions des mines.
Je vais vous dire que le constat est amer parce que, après s'être convenu avec nos partenaires sur le modalité de paiement d'une tranche de $500 dans un premier temps, nous constatons que pour le moment, sur les 54 maisons d'achat installées à Kisangani, il n'y a eu que 7 maisons d'achat qui ont payé spontanément le $500. 12 qui ont donné des acomptes qui n'atteignent pas $500 et les autres pratiquement n'ont rien donné pour le moment. C'est l'incivisme fiscal.
Pour le président provincial de la Fédération de l'or et du diamant, Fekodi, ses membres ne refusent pas de payer les taxes. Toutefois, il voudrait poser un préalable. Préalable à discuter avec le gouverneur de province, Jean-Pierre Lola Kisonga, de son retour de Kinshasa, selon M. Tokole.
Nous avons envie de payer. Nous entendons le retour de l'autorité provinciale parce qu'il nous a fait fixer une audience, un rendez-vous. Je pense qu'à l'issue de cet entretien, on pourra avoir beaucoup de solutions.
Rappelons que la carte de négociant est une taxe de $3 000 américains fixés sur décision conjointe du ministre des Finances et de son collègue des mines. Mais pour les négociants de diamants qui sont gagnés, une concession a été faite par l'administration minière locale pour verser un premier acompte de $500 américains. Qui sont gagnés, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Direction Ituri, les autorités sanitaires du district de Arumahagi lancent un SOS. Elles demandent l'aide du gouvernement et des organismes internationaux pour sauver l'hôpital général de Haru, confronté aux problèmes de fonctionnement. Cet unique hôpital pour 13 ans de santé ne compte qu'un seul médecin. Faute de matériel dans les différents services, les malades sont transférés en Ouganda. Explication de l'administratrice gestionnaire de l'hôpital de Haru, Antoinette Akogiko, est au micro de Chris Mukand.
Nous avons des difficultés pour l'encadrement de nos malades, surtout les malades qui ont des problèmes de diagnostic interne, ce qui nécessite l'échographie et la radiographie. Après avoir diagnostiqué les problèmes internes, nous sommes obligés de leur fournir une note de transfert en Ouganda. Et il faut que nos malades puissent franchir la frontière pour aller et attraper là où on peut diagnostiquer leur maladie interne. Vous imaginez les coûts de transport, les coûts de migration, le coût de séjour en Ouganda. Ça aurait été un montant minime si ces gens étaient soignés et leur maladie était diagnostiquée ici. Le coût n'allait pas être exorbitant. Si nous voyons le coût total, c'est plus que même le quantique de ce qu'ils vont dépenser de l'autre côté. Vous voyez, c'est la population qui vit du produit vivrier. Tout le monde n'est pas en mesure de se procurer cet argent pour faire ces trajets et pour surmonter les coûts de l'autre côté.
Conditions de détention difficiles à la prison centrale de Cabinda, territoire situé à 180 km à l'est de Mbujimayi. Plus de 25 prisonniers croupissent dans cet établissement pénitentiaire délabré. Pas de lit, presque pas de nourriture pour les prisonniers. Pour se nourrir, ces prisonniers sont obligés de travailler dans la cité en dépit des risques d'évasion. Reportage Nikem Poutou.
Sans aucun lit, toiture suintante et délabrée. Pas de soins médicaux. C'est dans ces conditions que les prisonniers, femmes et hommes mélangés, vivent dans la prison centrale de Cabinda. Cet établissement pénitentiaire reçoit des détenus venant de tous les districts, obligeant les familles à parcourir parfois plus de 150 km pour leur rendre visite. Conséquence, les détenus ne reçoivent aucune assistance alimentaire. Le directeur de la prison, M. Nyongoni, estime que la seule solution est de leur donner l'occasion de se prendre en charge en les laissant travailler dans la cité en dépit des risques d'évasion.
Les détenus sont abandonnés à eux-mêmes. Le gouvernement ne songe plus à eux. On ne reçoit plus de subsides pour la chirurgie des prisonniers. Ici, je les fais sortir pour des petits travaux de contrat à la cité. Peut-être même de la paille. Avec une boîte telle, nous vendons ça à 50 francs. Imaginez-vous vous-même avec cette population que j'ai, avec un seul méga là de 200 francs. Vraiment, nous sommes dans de grandes difficultés. Il y a déjà eu des décédés ici par négligence. Il y a eu un qui s'est évadé du côté là où ils vont faire des petits contrats.
L'ONG Fraternité des Prisons, en charge de la gestion de la ration alimentaire dans quelques établissements du Kassai Oriental, dénonce également les conditions d'incarcération et le manque de moyens dont elle dispose. Pour le coordonnateur de cette ONG, Abel Ubuika, il n'y a probabilité de nourrir les prisonniers qu'une fois par mois. De son côté, le chef de division de la justice déclare que Cabinda n'est pas une exception et que tous les prisonniers souffrent de mêmes conditions de détention. Mbujimayi, Nikemputu, Radio Okapi.
Les magistrats de l'Équateur à l'école de formation en Mbandaka, une initiative de l'ONG Avocats sans frontières qui affirme appuyer le gouvernement congolais dans la lutte contre l'impunité et la reconstruction du système judiciaire en RDC. Selon les organisateurs, ce séminaire qui réunit plus de 60 magistrats civils et militaires vise le renforcement des capacités des hommes de la loi. Mais qu'est-ce que ce séminaire de 5 jours apporte concrètement aux praticiens du droit? Les impressions du capitaine Pierrot Moulakou, auditeur militaire de garnison de l'Issala. Ses propos sont recueillis par Jean-Michel Liboulamopolo.
Nous savons d'abord que le droit est évolutif. Avec les conventions internationales signées par notre État, il fallait qu'on puisse mettre tout le monde au point, afin que lorsque nous allons nous trouver devant un cas de crime contre l'humanité, que nous ne terrorisons pas, que nous allons tout droit et nous cherchons les éléments constitutifs de cette infraction. Maintenant, pour nous, ça nous a apporté un de plus. D'ailleurs, le crime contre l'humanité, tel que le génocide, est repris dans le code de justice militaire. Donc, dans ce séminaire, on cherchait à nous apporter de plein niveau, en ce qui concerne l'évolution ici, au niveau du Congo. On a pris la procédure pénale congolaise et son implication avec les conventions internationales, la manière dont les juridictions internationales seront organisées, l'application des dispositifs des conventions internationales dans le droit interne.
Mohamed Sissa Brazzaville, depuis hier soir, le roi du Maroc effectue sa première visite au Congo-Brazzaville, une visite qui tournera essentiellement autour des relations d'affaires entre Brazzaville et Rabat. On parle déjà de la signature de plusieurs contrats économiques entre les deux pays. Arsène Severin.
C'est à 19h35 que le Boeing 747 de Mohamed VI s'est immobilisé à l'aéroport international de Mayamaya. en provenance de Gambie, le souverain chérifien a été salué par une foule bigarrée mobilisée de l'aéroport jusqu'à sa résidence. Brazzaville et Rabat ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1964. À la clé, 8 accords de coopération dans les domaines de la recherche, de l'éducation, de l'agriculture, de la coopération militaire et aujourd'hui de la santé, avec le lancement d'une vaste campagne de vaccination gratuite ce matin. Cette coopération va être renforcée avec la signature cet après-midi de nombreux accords. On trouve au Congo-Brazzaville une communauté marocaine très active dans le commerce. Bien que reçue par le président de l'Union africaine, le Maroc, 5e puissance économique d'Afrique d'après son PIB, ne fait toujours pas partie de l'Union africaine depuis les années 80. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi.